Le journal, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils se rejoignent sur l'essentiel. Face à une Russie qui montre les muscles, les Occidentaux réaffirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés en cas d'invasion de l'Ukraine. Reste à trouver le chemin pour dissuader Moscou. C'était le but de la réunion par visioconférence hier entre le président américain et plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne. Alexis Guilleux, les alliés affichent leur unité tout en misant sur le dialogue.
Oui, et les alliés sont tous d'accord sur un point, il faut trouver une sortie diplomatique à cette crise ukrainienne. La France insiste notamment sur la nécessité d'un dialogue renforcé avec la Russie. C'est pour cela que Paris organise demain une réunion à 4 avec Moscou, Kiev et Berlin. C'est sur la question des sanctions qu'il y a encore quelques divergences. Les Européens parlent de conséquences sévères pour la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, mais ne donnent pas de détails alors que Washington a clairement haussé le ton depuis deux jours. Évacuation des familles de diplomates, menace de gel d'exportation stratégique, car Moscou ne semble pas vouloir apaiser les tensions, selon le porte-parole du Pentagone.
Les Russes continuent de poster de nouvelles forces à la frontière avec l'Ukraine. En Biélorussie également, les chiffres augmentent. Donc non seulement ils ne montrent pas de signes de désescalade, mais ils renforcent leur capacité d'action.
Washington a donc mis en état d'alerte 8500 militaires, forces armées, logistiques, renseignements. Ces troupes pourront être déployées en Europe de l'Est seulement si l'OTAN le demande. Les Américains disent ainsi vouloir montrer qu'ils sont prêts à soutenir leurs alliés.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, la crise ukrainienne sera au menu de la rencontre entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ce soir à Berlin. Le chef de l'État a également prévu de s'entretenir avec Vladimir Poutine dans les prochains jours.
En attendant, le président de la République poursuit son déplacement dans la campagne française après la creuse hier. Il sera donc en Haute-Vienne aujourd'hui, toujours dans le Limousin. Il y a peu de chances qu'il échappe à la sempiternelle question de sa candidature.
Et des lycéens et des journalistes présents hier dans la Creuse ont bien tenté de lui arracher quelques indices. Peine perdue, le président, pas officiellement en campagne pour sa réélection, a entretenu le flou sur ses intentions. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, le chef de l'État ne peut plus faire un pas sans qu'on lui pose la question de sa candidature.
Oui, et il devient de plus en plus difficile pour Emmanuel Macron d'y échapper. À peine arrivé dans la Creuse, au lycée agricole de Ahun, Tom, 18 ans, l'interpelle.
Du coup, ça va être ma première élection. Est-ce que vous vous présentez aux élections? La question.
Moi, en temps voulu, j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout. Si tout avait été réglé, c'est pas le cas. Donc réponse au prochain épisode.
J'annoncerai ma décision en temps voulu, lance le président, comme si ce n'était pas le moment, comme s'il n'y avait pas de campagne. Emmanuel Macron, en tout cas féminin, donne pas en être certain.
Il paraît qu'on est en campagne et donc il y a apparemment beaucoup de gens qui, dans ces cas-là, sortent des choses et vous font dire le contraire.
Il paraît, apparemment, le locataire de l'Élysée s'amuse de cette situation. Un certain cynisme qui a un avantage pour lui, créer l'attente et surtout monopoliser l'attention. C'est ça, une campagne qui ne dit pas son nom.
Jacques Serret.
L'actualité économique avec ce plongeon d'Orpea à la Bourse de Paris. Orpea, c'est le leader européen des maisons de retraite. Le groupe a dû suspendre sa cotation à la Bourse de Paris hier après la parution d'un livre enquête.
Le titre a perdu plus de 16%. Le groupe Orpea parle d'accusations mensongères. Le livre en question s'intitule « Les fossoyeurs ». Le journaliste Victor Castanet décrit « Témoignages à l'appui, les dérives à l'œuvre dans certaines maisons de retraite ». Carole Ferry, ce qui est raconté dans ce livre, ce sont les dérives d'un système obsédé par la rentabilité.
Oui, le récit commence par la vitrine de l'enseigne, l'EHPAD Les Bords de Seine à Neuilly, avec les témoignages de salariés qui racontent les couches limitées à 3 par jour pour les résidents, y compris quand ils sont malades. L'odeur d'urine à l'entrée car ils ne sont pas suffisamment changés. Faute de couches, mais aussi de personnel. Et puis il y a les nombreux témoignages de familles, plus de 200 au total, sur les repas rationnés, les soins d'hygiène insatisfaisants. Il y a aussi l'écrivaine Françoise Dorin, décédée selon sa famille des suites d'une escarre mal soignée, une plaie profonde devenue plus grosse qu'un poing. Les chambres sont pourtant facturées 6 500 € par mois pour les moins chères, jusqu'à 12 000 € pour les plus luxueuses. Au-delà de la maltraitance, Victor Castanet dénonce surtout la course à la rentabilité au détriment du bien-être des résidents. Les premiers extraits hier ont entraîné une chute de l'action Orpea qui a dû suspendre son titre. Le groupe dénonce des accusations mensongères, outrageantes, préjudiciables. La direction précise qu'elle attend la parution du livre dans son intégralité avant de décider d'éventuelles poursuites.
Carole Ferry, d'autres titres Corpéa ont été pris dans la tempête boursière. L'action coréenne a perdu 12%, Ina Santé près de 4%.
Vous avez peut-être l'habitude de passer par ce site internet pour réserver vos billets de train. Oui SNCF, et bien cette application désormais n'est plus qu'un souvenir.
Ne l'appelez plus Oui SNCF, mais SNCF Connect. Cette application et le site internet qui l'accompagne sont disponibles depuis ce matin. Objectif, faire du tout en un. Information trafic, achat de billets, réservation de repas ou encore réservation d'un taxi. Aurélien Fleureau, la SNCF en avait fait un enjeu majeur.
Oui, l'idée générale, c'est d'abord de réunir les deux applications existantes, Oui SNCF et l'assistant. En clair, que vous ayez au même endroit la possibilité d'acheter un billet, de savoir de quel quai va partir votre train, mais aussi calculer un trajet en temps réel, choisir le mode de transport le plus adapté. Plus simple, par exemple, de pouvoir acheter sa place dans un TGV, mais aussi dans un TER, sans devoir passer par une autre application ou par un guichet, de modifier une réservation, de se faire rembourser, ou encore la possibilité d'enregistrer toutes les cartes de fidélité au même endroit. Fruit de près de 2 ans de travail, 1 million d'avis clients analysés et grâce à l'intelligence artificielle, SNCF Connect pourra être régulièrement mise à jour et améliorée. La manière de rechercher un trajet sera là aussi plus facile. Si vous écrivez Paris-Lyon, départ vendredi, retour lundi, eh bien l'algorithme va vous proposer en quelques instants les horaires sans avoir besoin de remplir chaque case une à une. Et puis l'impact CO2 de chaque trajet sera encore plus mis en avant.
Explication Aurélien Fleureau.
Enfin, direction Pékin en Chine, où l'on se prépare à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver, jeux placés sous le signe du Covid.
Les autorités chinoises traquent le virus dans les moindres recoins. Il y a une chose qu'elles n'avaient peut-être pas prévue, c'est que la bulle sanitaire réservée aux athlètes et à l'ensemble des participants abriterait autant de cas Covid, 72 pour l'instant, plus que ceux recensés en ville. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Il y a déjà plus de personnes contaminées dans la bulle olympique que dans le reste de Pékin. Des athlètes, des techniciens, des journalistes étrangers dépistés positifs au coronavirus à leur arrivée en Chine. Inquiétant selon le CIO. Côté chinois, on s'en tient au protocole. Ceux qui ont un test positif confirmé ne seront pas autorisés à concourir et seront hospitalisés. Les asymptomatiques devront rester à l'isolement avant d'être rapatriés dans leur pays. Pour Yu Jiaqing, vice-président du comité Pékin 2022, il faut à tout prix éviter que les malades ne contaminent le reste de la population.
Malgré la pandémie de Covid-19, ce qui est plutôt rassurant, c'est que la Chine a fait le meilleur travail au monde pour contenir le virus. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin n'ajouteront aucun fardeau à la lutte contre l'épidémie dans le pays.
Et pour cela, Pékin doit maintenir sa bulle sanitaire la plus hermétique possible. Depuis 48 heures, les délégations commencent à arriver et le balai des navettes entre l'aéroport et les 3 villages olympiques se déroule toujours sous bonne escorte policière. Aucun contact ne doit avoir lieu avec la population et même en cas d'accident, les autorités ont demandé aux habitants de ne pas intervenir et d'attendre des équipes spécialisées. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
L'Open d'Australie de tennis, premier quart de finale du tableau masculin. Rafael Nadal affronte en ce moment le Canadien Denis Shapovalov. L'Espagnol mène 2-1. Le match entre Gaël Monfils et Matteo Berrettini est prévu en début de matinée pour nous. Et puis la France se replace dans la course à la qualification pour les demi-finales de l'Euro. Après avoir dominé le Monténégro hier soir 36-27, il ne leur faudra plus qu'un nul demain soir face au Danemark pour rejoindre le dernier carré.
Voilà, c'est du handball. Vous avez oublié de nous dire l'essentiel, mon cher Christophe. Mais voilà, c'est du handball. Les
Merci
Bleus.
De la correction.
Voilà, les Danois, demain soir, ça c'est du très 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 gros. Allez, allez les Bleus. Merci Christophe Lamar.